Quelques éléments d'anthropologie chrétienne, enjeux existentiels, éthiques, spirituels, d'une juste conception de l'homme. Tel est le thème de la conférence que nous vous proposons de suivre. Elle a été présentée par l'abbé Riqueito Tellus, prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Pierre de l'Océan à Saint-Jean-de-Luz. Enregistré le lundi 7 mars 2022 dans les studios de Radio La Prodi, nous écoutons l'abbé Riqueito Tellus.
Je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps de réflexion pendant le carême à l'initiative de la paroisse Sainte-Famille de Pau. Et aujourd'hui, nous abordons la question de la vision de l'homme à la lumière de la foi chrétienne. Le titre de cette conférence aujourd'hui, c'est « Quelques éléments d'anthropologie chrétienne, enjeux existentiels, éthiques, spirituels d'une juste conception de l'homme ». C'est-à-dire, nous allons essayer de réfléchir sur l'homme tel que Dieu l'a voulu depuis toujours et l'a révélé dans la révélation, dans le mystère de l'incarnation. Oui, chers amis, la révélation n'est pas seulement une révélation de Dieu sur lui-même, mais aussi une révélation de Dieu sur l'homme. Et l'ensemble des réflexions qui se proposent autour de la question de l'homme, c'est-à-dire qui se proposent de répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» s'appelle anthropologie. Du grec « anthropos » qui signifie « homme » et « logos » qui signifie « étude » et « réflexion ». Lorsque nous abordons la question de l'homme, peut-être la première question à laquelle nous devons au préalable apporter quelques éléments de réponse, sinon un élément de réponse, c'est « Pourquoi se questionner sur l'homme ? Pourquoi donc se poser la question de l'homme aujourd'hui ? Y a-t-il une urgence de cette question ? Ou au moins, est-elle pertinente ? Je pense qu'aujourd'hui, comme jamais, nous avons besoin de retrouver, de redécouvrir les repères fondamentaux qui nous permettent de saisir, de comprendre ce que nous sommes, ou encore qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire ce que notre humanité, je veux dire notre nature humaine, comporte dans son essence la plus intime. Ce que être un être humain veut dire d'abord et toujours, invariablement selon l'époque, le lieu, les avancées scientifiques, les conquêtes sociales, etc. En fait, pendant certains siècles, en Occident au moins, il y avait une sorte de consensus anthropologique, pouvons-nous dire. On pouvait aisément s'entendre sur la nature spirituelle de l'homme, sur la différence sexuelle, sur sa dignité depuis la conception jusqu'à sa mort, sinon sur sa fin surnaturelle. Mais aujourd'hui, le constat est que un tel consensus semble difficile. Le consensus anthropologique de jadis vole en éclats, malgré ou avec l'humanisme des temps modernes, malgré les grandes avancées ou avec les grandes avancées scientifiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanisme, comme pour dire un dépassement de certaines conceptions qu'on peut considérer vieilles de l'homme. Et nous avons pour résultat manipulation génétique, menaces de toutes sortes sur la vie, philosophie du soupçon dont certaines proclament la mort de l'homme après la mort de Dieu, dissociation sexualité et amour, théorie du genre, transhumanisme, disons-nous, et deep ecology. C'est un peu, de manière rapide, je le concède, le tableau d'aujourd'hui. Parfois, tout cela peut conduire à une perte de boussole, à une confusion. Cherchons donc des repères. Trouvons donc une boussole. La réponse chrétienne à la question de l'homme peut être cette boussole. Et nous l'avons rappelé, cette réponse se trouve dans la révélation. En tant que révélation de Dieu sur lui-même et en tant que révélation de Dieu sur le mystère de l'homme. Dieu se révèle dans son propre mystère ou Dieu révèle son propre mystère et en révélant son propre mystère, Dieu révèle à l'homme le mystère de l'homme même. Je n'ai pas besoin de rappeler ici qu'il y a plusieurs anthropologies, c'est-à-dire plusieurs tentatives, souvent bien réussies, de répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?». Il y a des anthropologies scientifiques, anthropologies philosophiques, anthropologies sociales. Mais la spécificité de la réponse chrétienne est double, elle est importante et elle est d'un enjeu très très important pour chacun de nous. Il y a une spécificité que nous pouvons dire méthodologique c'est-à-dire la voie, le chemin, les outils utilisés pour aborder la question dans, selon une perspective chrétienne. En effet, l'anthropologie chrétienne comporte deux exigences méthodologiques, ou se construit, se déploie selon deux exigences méthodologiques. Une exigence d'abord rationnelle, c'est-à-dire conforme à la raison humaine, un certain fondement philosophique de l'approche chrétienne de l'homme. La raison naturelle doit être honorée, c'est un don de Dieu. Et une exigence de foi, c'est-à-dire à la lumière de la révélation chrétienne. C'est le fondement biblique de cette anthropologie chrétienne. La révélation biblique, nous l'avons dit dès le départ, jette une lumière décisive sur le mystère de l'homme, qui vient compléter, par exemple, les intuitions des artistes et aussi les réflexions des philosophes. L'homme est image de Dieu, apprenons-nous dans l'Écriture. L'homme est le joyau de la création. Il est la finalité même de l'acte créateur. La personne, concept clé dans l'anthropologie chrétienne, est infiniment précieuse car elle porte l'image du Dieu transcendant et a été rachetée par le Christ. Maintenant, essayons de voir ce que l'approche chrétienne comporte de spécifique, en voyant en quelque sorte les éléments fondamentaux de l'approche chrétienne de l'homme, de la vision chrétienne de l'homme, de l'anthropologie chrétienne. Mais avant de mettre en relief les éléments fondamentaux de la vision chrétienne de l'homme, disons quelques mots sur la représentation de l'homme dans l'art, dans la peinture, la sculpture, notamment à la Renaissance. Nous savons les artistes à la Renaissance, qui est l'époque de l'humanisme, les artistes continuent de représenter des thèmes religieux, mais traitent aussi de nouveaux sujets tels que les scènes mythologiques. Prenons l'exemple du le printemps de Botticelli, des scènes antiques, David de Michel-Ange, et l'apparition des paysages aussi dans la peinture. Mais l'homme va y occuper une place centrale. L'art du portrait se diffuse dans toute l'Europe. Exemple célèbre, la Joconde de Léonard de Vinci. Mais à travers l'art du portrait, à travers cet exercice de la peinture, les artistes essaient de révéler, par la grâce suggestive des images, l'unicité, les traits uniques de chaque visage humain, de chaque homme. Les sculpteurs, comme les peintres, souhaitent représenter un être humain parfait, dont la beauté reflèterait la perfection divine. Cette beauté idéale se retrouve d'ailleurs dans le souci de respecter les proportions harmonieuses du corps humain. Léonard de Vinci va formaliser ce souci avec l'homme de Vitruve. Et de son côté, la philosophie souligne la singularité de l'homme parmi les vivants, son intelligence qui lui permet de discerner le vrai et d'agir en fonction de la vérité plutôt que sous l'empire de ses instincts. Sa liberté qui lui permet de se déterminer de l'intérieur, de dépasser les conditionnements qui pèsent sur lui et d'accomplir le sens de son existence. La notion d'accomplissement sera aussi très importante dans l'anthropologie chrétienne. Et sur ce point, rappelons que l'héritage grec, notamment avec Platon et Aristote de la philosophie grecque donc, a contribué sur le plan des concepts à l'expression de la vision chrétienne de l'homme. Beaucoup de concepts philosophiques vont être utilisés pour dire ce qu'est l'homme dans la vision chrétienne. En outre, l'homme composé d'un corps, d'une âme, d'un esprit, est présent dans la philosophie comme dans la vision chrétienne. À ce propos, nous pouvons lire cette citation de Platon dans un de ses dialogues qui s'appelle « Le Timée », où Platon écrit « Or, celui qui est parfait en bonté n'a pu et ne peut rien faire qui ne soit très bon. Il trouva que de toutes les choses visibles, il ne pouvait absolument tirer aucun ouvrage qui fût plus beau qu'un être intelligent, et que dans aucun être, il ne pouvait y avoir d'intelligence sans âme. En conséquence, il mit l'intelligence dans l'âme, l'âme dans le corps, et il organisa l'univers de manière à ce qu'il fût, par sa constitution même, l'ouvrage le plus beau et le plus parfait. Nous voyons là très bien l'image d'un homme, l'idée de l'homme comme corps, âme, esprit, donc intelligence. Maintenant, voyons l'anthropologie chrétienne, ces quelques éléments fondamentaux que j'ai annoncés et desquels on allait parler dans cette conférence. Le premier élément que nous pouvons évoquer, c'est l'image et la ressemblance. Il est évident que le premier aspect de la vision chrétienne de l'homme est ce que nous révèlent les récits de la création dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. En outre, du fait que nous apprenons que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous voyons dans la Genèse que pour créer l'homme, Dieu ne fait pas que dire. Il le modèle, il le façonne. Comme si Dieu descendait sur la terre, s'agenouillait pour prendre de la glaise et travailler l'homme, prendre cette boue et travailler l'homme, puis lui donner son souffle de vie. C'est la première grande révélation sur l'homme. Et nous pouvons dire avec raison, quelle dignité avons-nous donc? Deuxième élément de réflexion de l'anthropologie chrétienne, c'est la polarité et ou le paradoxe que vit l'homme. L'anthropologie chrétienne nous fait découvrir que l'homme est habité par une sorte de paradoxe, il y a une sorte de polarité dans l'homme. L'homme possède d'un côté une nature déterminée, donnée, déjà donnée, toujours donnée, mais l'homme a toujours le sentiment qu'il est appelé à plus. Nous pouvons tous en faire l'expérience. Il y a quelque chose, une sorte de tension vers, une soif de l'infini qui anime chaque homme au cœur même de sa finitude. Nous pourrions dire qu'en l'homme, il y a une nature, une donnée, un don de Dieu, un don, comme un premier accomplissement. Et puis, il y a un projet, une vocation profonde. Et cette vocation implique un appel intérieur, un appel qui vient de loin, de très profond, du très haut, et une réponse libre, vraie, une réponse d'amour, une réponse qui s'articule dans la liberté et la vérité de l'être. Nous comprenons donc facilement avec la révélation chrétienne qu'il s'agit d'un appel à ressembler à Dieu, à devenir saint. C'est la vocation originelle de l'homme, devenir saint, ressembler à Dieu. Et dans ce sens, deux autres éléments fondamentaux de l'anthropologie chrétienne sont aussi à souligner. D'un côté, il y a le drame historique du péché comme une sorte d'opacité de la ressemblance à Dieu, comme une sorte de refus du don, une division qui est inscrite dans l'unité originelle de l'être humain, de l'être. De l'autre côté, il y a l'événement historique de l'incarnation et résurrection du Christ par lequel la grâce nous est donnée. D'un côté donc, il y a le péché qui signait la chute de l'homme par le mensonge du malin et la grâce qui signe la rédemption, qui est la rédemption, le relèvement de cette chute par la vérité révélée en Jésus. Un troisième élément que nous aimerions souligner dans l'anthropologie chrétienne, c'est la notion de personne. La notion de personne est au cœur de la vision chrétienne de l'homme. Nous aurions pu évoquer l'étymologie de ce concept qui, du grec prosopon, signifie masque, le masque que porte un acteur pour jouer un rôle, étymologiquement, fondamentalement. Mais il convient ici surtout de rappeler que nous ne pouvons que mieux comprendre la personne humaine, le concept même de personne, à partir de son prototype, les personnes de la Trinité. Dans ce sens, la personne signifie fondamentalement, principalement, relation et communion. L'homme est relation et communion, comme personne. Cela nous fait comprendre que les tentations de l'individualisme moderne, de toutes ces choses qui tentent à nous séparer les uns des autres, sont des tentations déshumanisantes. Nous sommes créés pour nouer de vraies relations, pour vivre une réelle communion. La personne n'est donc pas un concept juridique, les caractéristiques objectives par lesquelles on cherche à définir la personne humaine aujourd'hui oublient souvent cette origine fondamentale de la personne dans la Trinité. La dignité fondamentale de la personne commence ailleurs que dans la personne humaine elle-même. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de débats sur la question de la définition de la personne humaine, la question de la différence entre une personne, un être humain, un individu, un citoyen. Mais il faudrait peut-être poser la question d'une manière philosophique, comment on peut passer de quelque chose à quelqu'un? N'est-on pas toujours quelqu'un? C'est ça la vraie question. L'enjeu est là. On ne peut pas passer de quelque chose à quelqu'un. On est quelqu'un dès le départ. Nous avons rappelé et évoqué de manière succincte les quelques éléments fondamentaux de l'anthropologie chrétienne qui constituent en quelque sorte les basiques de la vision chrétienne, de la conception chrétienne de l'homme. Nous avons évoqué l'image et la ressemblance dans la Genèse. Nous avons évoqué la polarité ou le paradoxe qui habite l'homme, du fait que l'homme est une nature donnée, une nature toujours donnée, mais que l'homme a toujours le sentiment qu'il est appelé à se réaliser, à s'accomplir. Et nous pouvons remarquer dans ce sens que de tous les êtres vivants, l'homme est le seul à vivre cette situation. Tous les autres êtres vivants ont le moyen, je pourrais dire, naturel de s'accomplir, de parvenir à leur finalité. Mais l'homme, puisque sa finalité, son accomplissement est surnaturel, est au-delà, est transcendant, l'homme a besoin d'un plus pour se réaliser, pour s'accomplir. Et l'homme vit dans cette tension parce que il n'a pas les moyens naturels dans le sens où, pour parvenir à cette fin, il a besoin de s'ouvrir au transcendant, à la transcendance, à plus que lui-même. Et nous avons évoqué dans ce sens aussi le drame historique du péché et l'événement merveilleux et joyeux de la grâce dans le mystère de l'incarnation et de résurrection du Christ. Donc, le mensonge du malin et la vérité dans le Christ. Nous avons évoqué aussi la notion de la personne, l'importance du concept de la personne dans la vision chrétienne de l'homme. Et cette notion, ce concept, qui ne se cantonne pas seulement dans son aspect, dans son sens juridique, ou dans son sens purement étymologique de masque, mais qui nous rappelle le prototype de la personne même, qui est la Trinité. Et dans ce sens, l'homme comme personne est fondamentalement relation et communion. Et maintenant, voyons comment cette révélation de l'homme par Dieu s'est faite en Jésus. Le Christ, et c'est une vérité, c'est un principe fondamental de l'anthropologie chrétienne, le Christ jette une lumière décisive sur le mystère humain et restaure la ressemblance. Ici, il y va de l'espérance qui habite l'homme aussi, au cœur même de la situation paradoxale que l'homme vit. Il y a toujours une espérance que cet accomplissement est possible, que cet accomplissement peut se faire, parce que Jésus est venu nous révéler le chemin pour y parvenir. Dans la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, nous lisons que, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Et avant, interprétant le mystère de la création à la lumière du Nouveau Testament, Tertullien, dans son œuvre de la résurrection des morts, écrit « Et Dieu, dit l'Écriture, modela l'homme avec la glaise du sol. Mais à voir Dieu travailler cette boue, on comprend qu'il s'agissait d'une œuvre extraordinaire. » C'est qu'à travers ce limon qu'il pétrissait, Dieu entrevoyait déjà le Christ qui un jour serait homme comme ce limon. Verbe fait chair comme cette terre qu'il avait entre les mains. Dieu modela donc l'homme selon l'image de Dieu, c'est-à-dire selon le Christ. Dès lors, ce limon qui revêtait l'image du Christ, telle qu'elle se manifesterait dans son incarnation future, n'était pas seulement l'œuvre de Dieu, il était aussi le gage de Dieu. Donc, nous pouvons dire que l'homme n'est pas seulement à la ressemblance et à l'image de Dieu, mais l'homme est à cause du Christ. Dieu, en créant l'homme, nous dit Tertullien, pensa au Fils, avait l'image du Fils. C'est comme si le modèle selon lequel nous sommes créés, c'est le Christ, c'est le Fils lui-même, c'est Jésus. Ça, c'est fondamental pour l'anthropologie, pour la vision chrétienne de l'homme. Donc, nous pouvons dire d'abord que le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Cela, nous le savons très bien. C'est donc lui, le Christ, qui réalise la ressemblance parfaite, la ressemblance avec Dieu. Le Christ me révèle donc ce qu'est l'homme accompli. Et en particulier, je peux comprendre cela en voyant que le péché n'a rien d'humain, que le péché est notre déshumanisation. Et plus tard, Pascal, après donc Tertullien, beaucoup de siècles après, écrit « Sans Jésus-Christ, nous ne savons ni ce qu'est Dieu, ni ce qu'est l'homme, ni ce qu'est la vie, ni ce qu'est la mort. » Et bien, on annonce dans ces derniers carnets, nous ne nous connaissons pas. Le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes. Nous ne rentrons en nous que pour mourir, et c'est là qu'il nous attend. Il, c'est le Christ, c'est Dieu. Nous voyons donc non seulement Jésus nous révèle notre véritable humanité, mais bien plus, il nous sauve. Et cela, c'est important. Jésus nous révèle notre humanité, mais il nous sauve de l'opacité, comme je disais au début, de cette ressemblance qu'avait introduit le péché. Jésus donc nous libère de notre péché. Il nous permet de renaître de l'esprit. Sa résurrection est notre promesse de vie. Donc, plus qu'un sage ou un maître, comme certains tentent de le croire ou de nous le faire croire, il est le sauveur. Lorsque nous abordons la question de voir comment le Christ révèle le mystère de l'homme, de voir la lumière décisive que le Christ jette sur le mystère de l'homme, nous avons l'impression de faire de la christologie au lieu d'anthropologie. Cela, c'est tout à fait légitime, parce que la christologie est en quelque sorte un passage obligé, un passage obligatoire pour saisir la vision, l'image de l'homme, pour saisir l'essence, la nature même de l'homme. Il n'y a pas de compréhension de l'homme sans le Christ. C'est le Christ qui nous révèle l'homme. C'est ce que nous venons de rappeler avec le Gaudium et Spes, avec Tertullien, avec aussi Pascal et Bernanos que nous avons évoqués. Et nous pourrions évoquer beaucoup d'autres auteurs qui nous aident à réfléchir sur cette question, sur ce mystère de la révélation du Christ et cette révélation sur l'homme. Maintenant, essayons de résumer quelques clés qui nous permettent de comprendre l'homme par-delà les diverses approches anthropologiques. Une première clé, c'est, nous pourrions dire que la seule matière est inapte à décrire la personne, contre la conception matérialiste, nous pourrions dire, de l'homme. Elle est inapte à décrire n'importe quel être vivant, la matière. Il y a toujours un principe de forme immatériel qui spécifie un être vivant. Et ce principe, c'est l'âme. Donc, la seule matière est inapte à décrire la personne. L'homme n'est pas seulement matière. L'âme humaine, deuxième clé, a quelque chose de spécifique par rapport à l'animal. Ce sont les facultés spirituelles, spirituelles dans ce sens d'exercice de la volonté de l'intelligence, qui expriment donc la liberté de l'homme, conscience, intelligence, volonté. Ces facultés spirituelles, troisième clé, sont orientées de soi vers un au-delà de l'homme. La nature humaine est naturellement ouverte vers une dimension surnaturelle. vers la transcendance. L'homme est capax dei. L'homme est naturellement ouvert à Dieu, même si c'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler. La foi dans cette optique est une grâce à laquelle la nature est cependant conformée. C'est-à-dire que la grâce ne contraint pas la nature, mais la surélève. J'aimerais évoquer comme un dernier point cette sorte de question-réponse qui se donne entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le psaume 8, le verset 5, nous entendons le psalmiste poser cette question « Qu'est-ce que l'homme ?» Nous pourrions dire que cette question traverse tout l'Ancien Testament aussi en quelque sorte. C'est l'homme qui s'étonne de sa dignité, de la dignité qu'il porte. L'homme qui cherche à comprendre pourquoi il est objet d'un tel amour du Père malgré sa faiblesse, malgré son état. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci, dit le psalmiste. Et dans le Nouveau Testament, il y a comme une sorte de réponse qui finalement devient évidente. C'est en Jean, l'évangile selon saint Jean, chapitre 19, au verset 5, lorsque Jésus est présenté avec ces mots de la bouche de Pilate, « Voici l'homme, ecce homo, voici l'homme ». Alors nous comprenons que la réponse à cette question du psalmiste, « Qu'est-ce que l'homme ?» c'est Jésus. « Qu'est-ce que l'homme ? Voici l'homme. » Alors, seul celui qui est vraiment Dieu et celui qui est vraiment homme peut révéler en plénitude le sens de notre humanité. C'est donc en scrutant le visage du Christ que l'homme peut se comprendre en lui-même, comme personne, mystère d'amour et de liberté. Nous pourrions dire, seule une image de l'homme qui le sauve l'empêche de sombrer et lui donne une espérance. Et pour approfondir toutes ces questions, je vous conseillerais la lecture de Gaudium et Spes dans le Concile Vatican II. Merci.
Vous venez d'entendre l'abbé Riqueito Tellus qui présentait quelques éléments d'anthropologie chrétienne, enjeux existentiels, éthiques, spirituels d'une juste conception de l'homme. Retrouvez cette conférence en téléchargement sur notre site www.lapourdi.net.